Tadaima!
Okarina Sai, Taro-chan.
Alors, t'as écrit l'épisode sur Kill la Kill?
C'est en cours. J'ai pas encore fini. Mais attends, c'est quoi cette tenue? On dirait une écolière japonaise et en plus dénudée.
Moi, Taro-chan, si pour réaliser mes ambitions, je dois montrer mes fesses au monde entier, ce sera sans hésitation ni honte!
Mais tu fais chier avec ton Kill la Kill!
Tu n'es qu'un porc en uniforme. Sans fibre vivante, tu n'as aucune chance contre moi.
Je vais t'apprendre deux choses intéressantes. La première, habillé comme ça, il ne te faudra pas longtemps avant d'être arrêté pour atteinte à la pudeur. La seconde...
Ben, fais gaffe, hein, j'ai passé la serpillière il y a 10 minutes, c'est encore glissant.
Ouah!
Te voilà à ma merci. Voici la technique de l'ultime serpillière renversant au centre de cerisier des premiers amours.
Ne sous-estime pas ma détermination. Fibre vivante, adaptation. Kamui Lapino. Don't lose your
Le samouraï et la soubrette. Épisode 1er. Kill la Kill.
Bienvenue dans ce premier podcast du Samouraï et la soubrette, le podcast où deux colocs parlent d'animation japonaise et plus si affinité. Celui qui vous parle actuellement au micro, c'est Xavier, et le co-signataire du bail de la coloc et du podcast, c'est Taro.
La terreur, c'est la liberté. Le règne, c'est la délivrance. La contradiction, c'est la vérité. C'est ça, la réalité de ce monde.
Ok, donc on va parler de Kill la Kill, une série animée des studios Trigger diffusée à partir de fin 2013 et ce jusqu'à 2015. Le pitch, Matoi Ryuko débarque à l'Académie Onoji avec une intention claire, retrouver l'assassin de son père. Taro, tu es disposé, j'aimerais savoir dans quel contexte tu as connu cet animé, mais sans dire des trucs bizarres s'il te plaît.
Ouais, bon, je vais faire un effort. Alors, Kill la Kill. Kill la Kill et moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé dans des circonstances tout à fait hasardeuses. Je venais d'acheter un lecteur Blu-ray interne pour mon PC, et j'avais également acheté un soft, puisqu'il faut un soft pour décoder les Blu-ray. Donc, il s'appelle Cyberlink Power DVD. Donc, c'est pas pour leur faire de la pub, ce sont des softs extrêmement merdiques et très chers. Et donc je venais de m'en mettre pour plus de 150 balles de soft et de lecteur Blu-ray, et je me suis dit on va peut-être arrêter là les dépenses, faudrait que je teste voir si ça fonctionne avec un Blu-ray, et tant qu'à faire que je puisse gratter un Blu-ray quelque part. Et donc j'ai regardé le catalogue de la médiathèque où j'étais à l'époque, donc c'était à Montélimar dans la Drôme, et il se trouve que les médiathèques n'achètent pas de Blu-ray, en tout cas pas dans cette région. Par contre, des fois, les médiathèques, elles achètent des coffrets combo Blu-ray DVD, comme le font parfois les particuliers. Et là, il y avait deux résultats sur le site. Le premier, c'était Interstellar. C'était un des grands films du moment, qui forcément était réservé et re-réservé. Et il y avait une autre entrée qui s'appelait Kill la Kill. Donc, du coup, je regarde l'image et je fais mais c'est un animé, ça. Donc, bah cool, j'y vais. Je récupère la galette. Donc, en fait, ils avaient la partie le coffret 1 sur 2. Et donc j'ai commencé à regarder l'animé et j'ai eu deux réactions, c'était « mais qu'est-ce que je regarde ?» et « c'est génial putain ». Donc la deuxième disque de la première partie du coffret était complètement bousillée, donc après à l'époque j'ai regardé les autres épisodes comme un petit piratin à la méthode Tipiak. Et j'ai fini aussi le deuxième coffret, du coup la deuxième moitié de l'animé, et entre temps j'ai même deux éditions, parce que j'ai l'édition Blu-ray plus DVD et l'édition DVD à part des coffrets.
Eh bien moi j'ai découvert Kill la Kill grâce à une chaîne de TV indépendante qui s'appelait No Life, qui était diffusée uniquement sur les box. J'ai découvert, pas directement sur la chaîne, mais grâce aux animateurs qui en parlaient beaucoup, notamment dans les sketchs et dans des interludes, des sketchs que je t'ai montré, Taro, et qui étaient très colorés, on va dire, et très inspirés. La série, je l'ai notée et je l'ai regardé un ou deux ans après, mais assez par hasard, sur une chaîne qui s'appelait Manga, parce que j'avais l'offre à ce moment-là. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu que certains épisodes qui correspondent, je pense, à la partie que t'as pas pu voir dans tes DVD. Pour le reste, eh ben, je l'ai vu en entier sur grâce à Grand Line, toi qui faisais la référence à Tipiak, eh ben, moi je fais la référence à Grand Line, pour le voir dans d'excellentes conditions un peu plus tard.
Bon, très bien. Du coup, je propose de passer à la partie suivante concernant les impacts que l'animé a eu sur nous. Je vais ouvrir le bal. Kill la Kill, pour moi, ça a été une véritable claque en termes d'animation déjà, et une claque intégrale. Je vais revenir sur ce que ça veut dire pour moi. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais vu pas mal d'animés, mais c'était essentiellement les shonen principaux, les shonen classiques. J'entends par là les Naruto, Bleach, etc. Donc des animés qui sont quand même sympas, où il y a des jolis combats, il peut y avoir des jolies musiques, etc. Mais ce sont des animés qui sont aussi très longs, sur lesquels tu ne peux pas avoir en permanence une claque au visage quand tu le regardes. Et en regardant Kill la Kill sur un condensé d'une grosse vingtaine d'épisodes, puisqu'il y a 25 épisodes à ma connaissance, vraiment là il y a eu une intensité dans l'animé, l'image qui fourmille de détails, la composition des plans, l'utilisation des perspectives, il y a une très bonne représentation des rapports de force et du gigantisme dans les plans de caméra, parce que Kill la Kill vraiment c'est du pur cinéma. Et au-delà de ça, l'humour absurde de la série a vraiment fait mouche avec moi. Je l'ai trouvé très bien dosé. Il y a aussi beaucoup d'autodérision et un certain recul des créateurs sur leur animé. Dans certains plans, notamment ceux où l'animation limitée est poussée à l'extrême. Donc on rappelle l'animation limitée qui est le concept poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'au lieu de représenter des animations fluides, on va encore réduire la fréquence d'image, ce qui force les créateurs à faire quand même des efforts pour rendre les mouvements lisibles et sympas à regarder. Là, forcément, le personnage de Mako qui est tout indiqué. De l'autre côté, ils ont les moyens de faire des plans, des scènes de combat qui sont quand même assez impressionnants, sans pourtant avoir eu un budget énorme derrière l'animé. Et il y a aussi des tropes, des gimmicks qui sont poussés à l'extrême dans cet animé, notamment les noms des attaques ou des clubs qui sont affichés en gros caractères rouges et qui prennent la moitié de l'image. Ça, je comprends qu'on puisse pas adhérer, mais moi, ça a totalement fait mouche. Et à côté de ça, la musique qui est vraiment sympa et qui colle toujours à l'action. Du coup, ça a été. C'est pour ça que j'appelle ça une claque intégrale, c'est que ça m'a touché sur un peu tous les points.
Moi aussi, j'étais très impressionné, et ce, dès le premier épisode, pour les raisons que tu as déjà évoquées, notamment que ce soit l'animation, la gestion des perspectives, des impacts, son humour notamment. Mais l'impact que Kill la Kill a eu sur moi, c'est sur ma consommation d'animé japonais. Jusqu'à présent, c'était une époque où je regardais plus trop d'animés et uniquement les shonen qui étaient diffusés sur Game One. Donc principalement, t'en parlais, Naruto, mais aussi du One Piece, du Fairy Tail, et voilà, avec les avantages et les défauts qu'ont toutes ces séries-là. Et là, on parle de Kill la Kill, c'est une série qui m'a clairement réconcilié avec les animés, avec des animés plus courts, avec des animés plus intéressants ou qu'il fallait rechercher, et c'est pour ça que j'ai changé ma consommation. J'ai commencé à regarder plus sur des plateformes en ligne regarder d'autres animés. Ça a vraiment relancé mon intérêt pour les animés. Je te propose d'aborder les nombreux bons points un peu plus tard, mais d'abord de se concentrer sur les messages véhiculés par l'animé.
Eh bien justement, au sujet des messages qui sont véhiculés par l'animé, il y a une incompréhension de ma part, c'est comment les gens peuvent-ils passer à côté de certains messages dans Kill la Kill, alors qu'ils sont présentés de façon fort peu subtile quand même, quand ils ne sont tout simplement pas dictés à l'oral par l'un des personnages. À commencer par le fonctionnement de l'académie. L'académie a tout pouvoir, on la voit bien au premier épisode, suspendre un élève à poil à l'entrée de l'école avec des barbelés, ce qui est quand même déjà un bon début. On a l'impact direct des résultats scolaires sur les privilèges des élèves, donc ça détermine directement leur niveau de vie résidentiel, ainsi que leur grade dans la hiérarchie du pouvoir, dans leur position dans l'école. Donc évidemment, il y a un concept de lutte des classes qui est poussé à l'extrême. On voit bien dans les bidonvilles, les sans-étoiles qui vivent avec des maisons qui ont des toilettes séparées, qui n'ont pas d'électroménager. Le niveau d'après, ce sont des appartements tout équipés avec balcon, plusieurs chambres, climatisation dans toutes les pièces. Il y a déjà une grosse différence entre les deux. Et le niveau d'après, ce sont des grandes maisons luxueuses avec des voitures de luxe. Et là, un niveau de vie qui devient complètement indécent. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Et durant l'épisode de la journée sans retard, on voit dans les quartiers privilégiés qu'ils ont une cabine suspendue qui leur est réservée, qui leur permet de se rendre à l'école, et qu'ils ont également des bus blindés avec des mitraillettes. Un bus qui est dérobé par Ryuko et Mako. Et là, on voit face à elle une femme au foyer défendre ses privilèges, littéralement, en tenant son bébé avec un bras. Et de l'autre, elle alerte les autorités avec un talkie-walkie pour ensuite saisir une mitraillette et leur tirer dessus. Voilà, donc elle est prête à leur tirer dessus pour défendre sa position. Donc bien sûr, c'est absurde, et il y a une part d'humour, évidemment, on est dans Kill la Kill, mais les messages, ils sont quand même là. Et on sait qu'au Japon, la pression des résultats scolaires et l'impact que ça a ensuite dans la vie professionnelle, il existe bel et bien et c'est un vrai problème.
Vu que tu parles de société japonaise, je pense qu'on peut aussi parler de la symbolique des vêtements et de ce qu'ils représentent. Ce sont des marqueurs sociaux évoqués avec la lutte des classes, et il y a aussi un symbolisme qui est lié au temps lycéen. Donc, les marqueurs sociaux par rapport à la lutte des classes, c'est ce dont tu parlais. Et il y a aussi, du coup, le symbole par rapport au lycée, l'uniforme de marin étant le marqueur le plus connu à l'international du temps lycéen, collégien et lycéen. La relation que Ryoko et Satsuki ont avec leur uniforme, leur kamui, ils montrent leur rapport respectif avec la vie lycéenne. Ryoko, d'abord, elle est réfractaire, puis elle en fait son allié sans retenue, et elle en fait même une partie de sa vie. Alors que Satsuki le considère toujours comme un outil à son ambition, et jamais comme autre chose. C'est, entre guillemets, presque une relation de travail. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à la fin, les deux ne sont plus lycéennes, et du coup, les kamui disparaissent. Mais le souvenir reste.
Le samouraï et la soubrette. Samouraï et la soubrette.
Après ce petit interlude, nous revenons donc sur les bons points de l'animé. Donc je vais entamer la marche avec le principal bon point pour Kill la Kill, c'est une vraie pépite d'animation. On l'a déjà abordé, la bonne exploitation des mécanismes de l'animation limitée pour pouvoir mettre le paquet sur certaines scènes de combat. Il y a également, et ça on l'a pas encore abordé, une patte graphique qui est assez particulière avec cet aspect coup de crayon que personnellement je trouve très réussi. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les musiques des épisodes qui sont assez épiques, qui accompagnent le récit en permanence, quitte à changer très très souvent au cours d'un même épisode, et qui sont même devenues pour certaines des sources inépuisables de mèmes sur internet. Et tout ça, c'est la forme, et c'est indéniable qu'il l'acquise sur la forme. On ne peut pas ne pas lui reconnaître ses qualités. Et il reste l'humour à côté, qui pour le coup c'est totalement subjectif. Moi j'adhère parfaitement à cet humour absurde et absolument débile, c'est juste succulent.
C'est compliqué d'ajouter des bons points une fois que Taro les a tous mentionnés, mais je peux faire l'effort d'en trouver. Je peux déjà dire que Kill la Kill, c'est le meilleur premier épisode de ever. Je peux pas dire autre chose. Que ça soit la mise en contexte de l'animé, que ça soit l'action, le ton, l'humour, le niveau d'animation, on a tout ce qui fait les qualités de la série en un épisode cohérent et absolument démentiel. Pourtant, il y a Kill la Kill, c'est pas la série que je préfère au monde, mais clairement, il y a pas un épisode, il y a pas une série qui fasse un premier épisode aussi parfait. Le second bon point, c'est l'excellent doublage en VF avec un casting d'ensemble super convaincant. On retrouve des acteurs de renom, notamment Yann Pichon, qui a déjà joué Spike Spiegel dans Cowboy Bebop, qui joue ici le rôle de Senketsu. Martial Leminou, pardon, qui est connu pour le rôle de Roy Mustang dans Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood, ici en prof Aikuro, donc et à chaque fois des voix reconnaissables et des rôles prédominants. On reconnaît aussi Marino Nenmarer, la voix de Lucie dans Fairy Tail, ici qui joue le rôle de Nui, le grand couturier. C'est bien parce que c'est surtout un rôle de méchante pour une fois, alors qu'elle est plutôt abonnée au rôle, au protagoniste gentil. Il n'y a pas de personnage secondaire qui tombe à plat ou à côté de la plaque. On a une très bonne adaptation de manière générale, avec un humour qui est très bien rendu. Ce qui est assez complexe, parce que l'humour de Kill la Kill, le tarot en témoignera, est quand même assez particulier. Je ne peux aussi que faire une mention spéciale à Caroline Combe, qui campe une Mako Mankachuku complètement dingue, inarrêtable et crétine, et en un mot, parfaite.
Alors, après les bons points, on va aborder les bémols. Alors, moi, je n'en ai pas écrit sur ma petite feuille. Néanmoins, je voudrais quand même du coup aborder un point que tu vas détailler par la suite. C'est la gestion de la nudité dans Kill la Kill. Moi, dans Kill la Kill, ça ne me pose pas de problème en soi dans l'animé. Le problème que ça me pose, c'est plutôt quand je le fais découvrir à quelqu'un, j'ai peur que les gens se bloquent sur cet aspect, parce que ça peut arriver que les gens bloquent sur ce genre de choses, et n'aillent pas voir l'animé plus en détail. Et du coup, jusqu'ici, je m'en suis plutôt bien sorti. Généralement, quand je présente l'animé aux gens, j'arrive à les emmener jusqu'à l'épisode 4, qui est l'épisode de la journée sans retard, qui est absolument dingue. Et jusqu'ici, tout le monde a accroché, donc je touche du bois.
Alors si toi tu en as peu des bémols, moi j'en ai quelques-uns. Je vais quand même revenir sur cette histoire de nudité. C'est vrai qu'il y a une gestion de la nudité qui est particulière. Comme tu dis, ça peut être pas forcément repoussant, mais ça peut quand même étonner un public qui n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais il faut quand même savoir que toutes les tenues ultra dévoilantes que même des stripteaseuses ne seraient pas portées et qui sont malheureusement présentes dans l'animé, elles sont quand même, je dirais pas justifiées, mais en tout cas, c'est pointé du doigt par l'animé. C'est-à-dire que les autres personnages ne cessent de se demander pourquoi les gens se combattent aux trois quarts à poil. Et bon. Mais bon, ça reste quand même un frein à l'accessibilité de cette série. Le gros souci que j'ai vu aussi, c'est la seconde partie de l'animé. À partir du moment où Ragyo devient clairement l'ennemi numéro 1 à la place de Satsuki, le scénario est en ligne droite et présente relativement peu d'intérêt. On enchaîne les explications confuses qui ne sont que des prétextes à de certes jolies scènes de baston over the top, mais relativement vaines. On a de plus en plus de scènes d'action et de moins en moins de parties humoristiques. L'humour est en retrait et ça enlève pas mal de charme pour moi à l'animé. Également, j'ai pas un attachement fou à Ryoko. On a l'habitude des héros qui foncent tête baissée, mais là, Ryoko, c'est rapidement unidimensionnel, uniquement animé par la vengeance. Alors certes, ça permet de faire briller ses acolytes et Bako en première ligne, mais ça pose quand même un problème en termes d'attachement au personnage.
Il est maintenant venu l'heure de conclure, et pour cela, je vais te demander, Xavier, quel est ton personnage préféré dans Kill la Kill ?
Clairement, c'est Mako Mankachuku, pour les raisons que j'ai déjà évoquées quand j'ai parlé du travail de doublage qu'a pu faire Caroline Combe sur le personnage. J'adore le personnage, surtout que j'ai l'impression que c'est presque un quatrième mur à lui tout seul, tellement il est hors de toutes les réflexions, hors du scénario, hors de tout, et voilà, assez incontrôlable. J'aime beaucoup ce personnage.
Me concernant, moi ce serait Kiryuin Satsuki, dont j'aime beaucoup le développement. Qui est donc en termes d'archétype un GAA, un Good All Along, donc qui reste quand même sur la durée à peu près prête à tout pour arriver à ses fins, mais qui finalement a quand même plutôt un bon fond et un objectif qui n'est pas si éloigné de celui de Ryuko et des Nudisto Beach. Pour résumer, en termes de recettes, pour faire un Kill la Kill, il faut pas mal de Magical Girls, un petit peu de mecha et beaucoup de Kill la Kill. Et une dernière question. Si tu devais donner un conseil de visionnage aux personnes qui n'auraient pas vu Kill la Kill, lequel serait-ce ?
Je pense que le premier épisode suffit largement. Comme je l'ai dit, il résume toutes les intentions et tout ce qu'on verra en termes d'extravagance dans l'animé. Et je pense que si déjà à partir de ce moment-là on n'accroche pas, que ce soit au niveau graphique, au niveau du ton, au niveau de l'humour, je pense que c'est pas à peine d'aller plus loin parce que on aura à peu près la même chose sur la suite.
D'accord. Alors moi me concernant, je conseillerais d'aller au moins jusqu'à l'épisode 4 inclus, qui est donc l'épisode de la journée sans retard, qui est absolument dingue, et je pense que ça vaut le coup de le voir, ne serait-ce que pour voir à quel point les animateurs sont partis dans tous les sens. Et bien voilà, c'en est fini de notre premier épisode du podcast du Samouraï et de la Soubrette sur Kill la Kill. On espère que vous l'avez apprécié, et en attendant de vous revoir, on vous dit de rester à l'écoute pour l'approche d'un prochain trailer qui vous annoncera le prochain épisode. À bientôt tout le monde.
Ciao.
Qu'est-ce qu'ils ont tous ?